Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Beaucoup de gens vous recommandent de courir avec une fréquence de 180 pas par minute. Mais vous n'y arrivez pas. C'est un point de frustration tellement important et la question de la semaine le montre bien. Alors je vais vous donner quelques conseils car c'est une clé pour courir de manière plus efficace et limiter les blessures. Mais mal le faire, c'est aussi s'épuiser pour rien. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42. Chaque semaine, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer et préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais hamster obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond vraiment. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition, ainsi que préparateur mental. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie et en ayant confiance pour le reste de votre vie. Et aujourd'hui, je le dis, j'ai une question très intéressante et qui montre bien la frustration qu'il peut y avoir si on essaye de suivre ce conseil de courir à 180 pas par minute, cette cadence idéale. Et ce qui est difficile à vivre, c'est que ce conseil devient une injonction, vraiment une injonction. Il faudrait courir à 180 pas par minute. Et là, bah, quand on n'y arrive pas, on se sent un petit peu nul. Et oui, très frustré surtout. Alors, je vais vous donner une astuce probablement assez inattendue, mais qui s'explique bien pour des raisons de biomécanique. Et avant, je vais vous donner quelques conseils et un peu ma vision des choses. Alors d'abord, quelle est vraiment la question? Et c'est important vraiment de regarder la question, parce que c'est Stéphane qui me demande comment augmenter sa cadence sans augmenter son allure. Et il met entre parenthèses le mot « footing ». Ça a vraiment une importance capitale, parce que vous allez voir que ça joue en fait sur la réponse elle-même. Alors, déjà, pourquoi on vous parle des 180 pas par minute, cette cadence qui est la cadence communément admise comme la cadence idéale? En fait, il y a eu des analyses qui ont été faites, des analyses scientifiques, hein, où ils ont analysé beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses, des coureurs pro, amateurs, sur des distances plus ou moins longues, des courtes distances, des longues distances, et en fait, ils ont calculé, trouvé que la cadence idéale se situe entre 170 et 190 pas par minute, et serait même donc idéalement pile au milieu là, autour de 180. Ces mêmes études se sont rendues compte que naturellement, on a aussi tendance à courir avec une cadence plus faible. Voilà, c'est comme ça. On a tendance à courir avec une cadence plus faible. Donc, finalement, il faudrait arriver à remonter hein, notre cadence pour arriver à s'approcher de cette zone entre 170, 190, donc 180 pas idéalement. Les études montrent en fait que cette cadence permet d'avoir une foulée plus légère, plus efficace, plus protectrice, et donc plus économe et qu'elle génère moins de blessures. D'ailleurs, anecdote personnelle, quand je m'étais blessé pour la préparation de mon premier marathon, Thomas Lorblanchet, qui est ostéo et ancien champion du monde de trail, m'avait fait travailler ma foulée pour me rapprocher justement des 180, et c'est ce qui m'amène au point suivant. Car je sais que c'est compliqué et pénible de trouver cette cadence. Et vraiment, je le sais. Je le dis, je l'ai vécu il y a quelques années. Alors, c'était assez vieux maintenant, parce que c'était il y a 5 ans, c'était en 2018. Et à l'époque, j'ai cherché plein d'astuces. Alors, je ne vais pas vous faire une liste complète de toutes les méthodes vraiment qu'on pourrait trouver, parce qu'il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous en donne quelques-unes que j'ai essayées. Donc déjà, c'est avoir une musique au rythme de 180. Vous allez sur Spotify, vous allez en trouver sans aucun problème. Il y en a même qui ont été faites pour les coureurs 180, etc. Donc vous allez trouver à peu près ça. C'est scientifiquement pas très correct, mais en tout cas, c'est plus intéressant que la solution suivante, qui est d'avoir une application type métronome. Vous savez, les applications pour les musiciens, tac, 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 vous la réglez sur 180, et donc bah, vous mettez ça sur votre téléphone, et ça fait tac, 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 tac. Alors, vous avez une méthode un peu plus, comment dire, un peu plus légère, j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez prendre votre montre. En tout cas, si elle a la fonctionnalité, c'est le cas. J'ai une fonctionnalité métronome sur ma montre Coros. Donc, chez Coros, vous avez la fonctionnalité métronome. Donc, vous pouvez dire, je la veux, 180 battements. Et vous pouvez demander, est-ce que votre montre vibre et fasse un bip. Alors, imaginez, vous partez courir comme ça, ça vibre et ça bip à chaque fois que tac, le pas, tac, 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 tac. Bon. Ensuite, une autre astuce, c'est de compter dans votre tête. Et moi, j'aime bien cette astuce-là parce que je l'ai beaucoup utilisée. En fait, il suffit de savoir compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous repérez le rythme en fonction d'un métronome. Hein, par exemple, vous prenez l'application métronome, et puis vous repérez comment ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à chaque fois que le métronome fait ça. Et donc ensuite, ce rythme, une fois que vous avez bien dans la tête, quand vous courez, et ben vous posez à les pieds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hein, droite sur le 1, gauche sur le 2, droite sur le 3, et 4, et vous avez compris, puis vous recommencez. C'est facile à compter, c'est à faire une espèce de petit truc un peu hypnotique, j'ai envie de dire. Et ça se fait assez bien. Alors, bien sûr, vous n'allez pas faire ça pendant une heure, vous allez faire ça pendant des petites... une petite minute, voilà, vous pouvez faire une sorte de d'alternance course-marche par exemple, hein, vous pourrez dire bah tiens, je vais me faire des petites séquences de 1 ou 2 minutes où je vais vraiment vraiment faire attention à ça, et puis marcher un petit peu entre temps, ou alors faire un moment où vous faites 1 ou 2 minutes où vous faites vraiment attention, et puis le reste de la séance sans trop faire attention. Et vous regardez ensuite quand vous rentrez chez vous, si votre montre a un capteur de cadence. Enfin, si elle a cette fonctionnalité-là qui est intégrée, bah, si vous y étiez proche ou pas, et si vous arrivez à vous en rapprocher. Alors après, il y aurait d'autres astuces, hein, comme trouver un fichier sur Internet avec le fameux rythme de 180, tac, 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 tac. Ça, c'est facile, hein, c'est un fichier MP3, mettez ça sur votre téléphone et dans les écouteurs, et c'est parti. Mais j'ai une autre astuce que je vous donne un peu plus tard, qui est pour moi la meilleure de toutes, parce que, en fait, on va un peu plus loin. Un peu plus loin dans la technique. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que finalement, là, je vous ai donné des astuces techniques sur les outils pour suivre le 180. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important. Et donc, avant de vous laisser compter dans votre tête, je dois vous mettre en garde sur une chose qui est pour moi vraiment importante. Si vous n'arrivez pas à atteindre ce fameux chiffre de 180, c'est assez normal, car en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Notre capacité à courir à cette vitesse-là dépend de plusieurs facteurs, et déjà du type de sortie que vous allez faire. En fait, il se peut que votre cadence soit plus lente, des fois, pile autour de 180 d'autres fois, et d'autres fois, carrément au-dessus, 190 à 200. Et en fait, ça vient de quoi ? Eh ben, ça vient de la vitesse à laquelle on court. Plus vous allez vite, et plus vous allez augmenter la cadence. Et ça, c'est très naturel. Donc, il se peut que des fois, vous couriez déjà à 180 sur certains rythmes, par exemple sur du fractionné. Il se peut que des fois, vous couriez encore plus vite que ça. Et puis, il se peut que des fois, vous couriez beaucoup moins vite. Et en fait, on est là dans des questions de mécanique. Si votre montre le permet, allez regarder dans votre séance, hein, s'il a cette fonction-là, je le répète, si vous avez cette analyse-là, regardez si elle vous donne ce chiffre-là, comparez votre cadence sur des footings et sur des fractionnés pour voir en fait les variations qu'il peut y avoir. Déjà, ça va être intéressant de voir à quel point vous êtes loin ou à quel point vous êtes proche. Et en fait, il y a un élément qui est aussi très important, c'est de se rappeler que selon la vitesse, votre foulée ne sera pas non plus identique. En fait, on ne court pas tout à fait de la même manière en footing, en mode plus rapide et en sprint. Vous comprenez bien, on ne va pas lever les jambes de la même manière, le pied n'aura pas le même chemin, hein, tout simplement. Ce qu'on appelle la poulaine, hein, c'est-à-dire le retour du pied à l'arrière, par exemple, ne se fait pas à certaines allures et va se faire dans d'autres allures. On va pas pousser aussi fort sur les jambes dans un cas que dans l'autre, etc. Donc, la foulée ne sera pas identique en fonction de la vitesse. Et ça, c'est m'amène au point suivant. Et là, on va parler de technique pure autour de la course pour bien comprendre, en fait, qu'il y a un changement à faire et qu'il n'est pas juste, en fait, de compter et d'essayer d'accélérer le nombre de pas que l'on fait. Et c'est ce qui permettra ensuite d'arriver vers la réponse à la question. Car ne pensez pas que vous pouvez juste augmenter la cadence sans changer votre foulée. Bah oui, car en fait, c'est ça qui vous fait tout simplement accélérer. C'est-à-dire que si vous essayez de poser les pieds plus souvent, hein, là en comptant 1, 2, 3, 4, et ben, si vous ne changez pas votre manière de courir, si vous ne changez pas votre longueur de pas, si vous ne changez pas la manière dont vous posez les pieds, et ben en fait, vous allez courir naturellement plus vite. Et c'est logique, parce que si vous faites un pas qui fait 1 mètre, je prends un chiffre rond, si vous faites un pas qui fait 1 mètre, si vous courez à 150 de cadence actuellement, et que vous passez à 180 de cadence par minute, ça veut dire que vous rajoutez quand même un sacré nombre de mètres. Donc vous allez, en essayant d'avoir la même foulée, de courir de la même manière, mais juste en accélérant les pas, et ben forcément vous allez courir plus vite. Et vous allez toujours, en faisant la même longueur, vous allez courir beaucoup plus vite, tout simplement, parce que vous allez faire plus de fois un mètre à chaque fois que vous faites des pas en plus. Et donc là, en fait, vous retrouvez dans la problématique de la question, avec une allure trop rapide, un cardio qui ne suit pas, et en fait, vous n'êtes plus du tout en allure footing. Vous êtes dans des allures beaucoup plus élevées, mais vous n'êtes plus en footing. Alors, comment faire ? Eh ben, il faut se rappeler que pour augmenter la cadence, il faut modifier sa foulée, et notamment que ça vient de la bosse du pied, qui doit se faire beaucoup plus à la verticale du corps que peut-être ce que vous avez l'habitude de faire, et c'est ce qui va aussi réduire l'impact au sol. Là, vraiment, c'est un élément qui est super important. C'est-à-dire qu'en fait, avec la cadence, c'est pas juste de faire plus de pas dans la minute, il faut changer la manière dont vous allez courir. Le pied ne doit pas être lancé loin vers l'avant, il ne doit pas être lancé loin vers l'avant. En fait, il doit venir se poser plus sous le corps. Et de même, pour augmenter la cadence, vous devez poser le pied moins longtemps sur le sol, c'est-à-dire moins vous écraser et être plus dynamique. Ce qui fait que vous allez avoir un impact moins fort, mais aussi probablement, pour ceux qui talonnent, moins talonné, puisque comme vous n'envoyez pas la jambe vers l'avant, eh ben, vous allez moins avoir de chances de talonner. C'est pour ça d'ailleurs que on dit que c'est une foulée ce système-là de cadence nous permet d'avoir une foulée plus protectrice, parce qu'en fait, elle nous oblige d'une manière ou d'une autre à venir sur une foulée plus médio-pied, plus sur l'avant-pied, sur le milieu du pied, que du pur talonnage. Et en fait, c'est ça qui explique que les chocs sont moins traumatisants, vous freinez moins en plus, c'est pour ça qu'elle est plus économe, parce que attaquer avec le talon, ben, ça fait des traumatismes, ça fait des vibrations, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grosses protections sous les talons, et ça freine aussi, là c'est la mécanique, ça freine, vous arrivez en fait avec il y a des forces contraires qui vont s'exercer. Donc en arrivant finalement en posant le pied plus à plat ou plus sur l'avant du pied, et ben finalement vous enlevez une partie des vibrations, de ce qui traumatise, et puis vous enlevez aussi du freinage. Donc c'est pour ça qu'en fait elle est plus protectrice, plus économe, et que normalement, en arrivant à modifier votre foulée et en arrivant en vous approchant de 180 par ce biais-là, eh ben vous allez tout simplement avoir moins de risques de blessure. Et c'est aussi ce qui explique que c'est difficile d'augmenter la cadence, en fait, parce que ça fait évoluer votre technique de course. Si vous courez depuis des années, ou même si vous courez pas depuis quelques temps seulement, en fait, vous avez pris une technique de course, vous avez pris des habitudes, une manière de courir. Et là, en fait, de vouloir augmenter cette cadence, vous allez devoir apprendre à courir un petit peu différemment. Changer comment votre pied va se poser, comment vous allez tout simplement courir, poser le pied. Les appuis vont changer musculairement aussi, ça va jouer, faut le dire aussi. Je pense qu'il faut faire un petit travail musculaire pour arriver à renforcer un peu plus. Il faut faire de la tonicité, il faut rendre le pied plus tonique, etc. Enfin voilà, il y a tout un travail qui doit se faire. Et ça va pas se faire en quelques secondes et juste par la volonté en comptant 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, pour répondre à la question, comment augmenter sa cadence sans augmenter l'allure? Et là, c'est vraiment un élément qui va être important, c'est que en fait, il faut se concentrer sur une foulée plus courte. Je l'ai dit, c'est que si vous gardez la même foulée et vous essayez juste d'augmenter le nombre de pas, bah forcément, vous allez aller plus vite. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il faut avoir une foulée qui soit plus courte, des appuis plus courts, et donc la foulée qui va changer, avec un retour du pied aussi, qui va être moins une foulée complète développée, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous savez quand vous voyez des athlètes, vous voyez que le pied revient très à l'arrière, ce que j'appelle la poulaine, et ben en fait, elle peut pas se faire parce qu'en fait, le pied n'a pas le temps de le faire, c'est-à-dire que quand vous augmentez la cadence et que vous êtes à petite allure et que vous raccourcissez la taille des pas, j'ai envie de dire que vous êtes moins de temps en l'air, en fait, donc le rythme du pied, le mouvement du pied ne peut pas se faire de la même manière, il peut pas être complet. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez regarder tous les livres que vous pouvez avoir sur les techniques de course, ce qu'ils disent, comment le pied doit faire et tout. Il y a des conseils en fait que vous ne pouvez pas appliquer en ayant une vitesse lente, tout simplement parce que vous n'avez pas le temps et parce que ça serait trop compliqué d'arriver à tout faire. Donc c'est pour ça qu'on se concentre finalement sur une pose de pied qui est plus dans l'axe du corps et pas trop vers l'avant. Et puis en se disant, je vais faire des appuis plus courts, et justement c'est ce qui va permettre d'augmenter le nombre de pas sans aller forcément plus vite. Et puis, il faut se dire que peut-être ce n'est pas possible dans certains cas. Et oui, c'est peut-être pas possible dans certains cas. Et là, je le dis encore une fois, c'est que j'en reviens sur cette histoire-là, de dire, est-ce que le pied a le temps de faire le chemin complet? En footing, le temps que le pied fasse tout le chemin d'une foulée complète, avec la longueur de la foulée, l'envol qu'on a, le temps où on est en l'air, etc., il est fort probable que la cadence idéale soit plus proche de 170 pour beaucoup de personnes. Vraiment, je le dis. Même si c'est vrai que vous regarderez, il y a des exemples, vous allez trouver des gens qui courent avec 180 en faisant des petits footings. J'ai toujours en tête un exemple d'un coureur japonais qui montre comment il le fait. Mais si vous regardez ces vidéos-là, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas une foulée qui ressemble à celle qu'on voit quand quelqu'un qui court vite avec le pied qui remonte vraiment en arrière et se cette mécanique, là, cette espèce de cycle comme ça, n'existe pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Et donc, il y a des allures dans lesquelles il est très compliqué pour beaucoup de gens de courir à 180, mais où en fait, déjà d'arriver à être à 170 plutôt que 150, est très agréable et va vous permettre de limiter la fatigue, les blessures, va permettre d'avoir une foulée qui soit plus protectrice et plus économe, et vous allez sentir petit à petit les bénéfices. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment grave hein, de pas arriver à être à 180, parce que c'est une norme statistique. Une norme statistique. Si vous êtes confortable à 170, si vous trouvez que c'est plus efficace à 170, si vous trouvez mieux, si vous arrivez à trouver votre équilibre, j'ai envie de dire, l'équilibre entre la fatigue que ça génère, la tranquillité, le plaisir de courir et tout, et que vous êtes à 170, et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que 510, c'est déjà beaucoup plus protecteur et efficace que 150, si vous posez bien le pied plus dans l'axe du corps et donc vous l'envoyez pas trop vers l'avant, hein, pour éviter de talonner, d'attaquer avec une jambe droite et avec un genou un peu bloqué, avec des appuis qui sont courts et dynamiques et non pas en vous écrasant dessus, ça sera déjà extrêmement protecteur et efficace. Et puis vous allez vous rendre compte qu'en accélérant, vous allez augmenter très naturellement la cadence. Peut-être qu'en allure 10 km, semi, marathon, 5 km ou je ne sais quelle allure, eh ben vous serez à 180. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être là où vous aurez plus besoin de cette foulée. C'est-à-dire que peut-être vous rendez compte sur un footing, vous êtes à 170. Mais que quand vous allez faire votre entraînement marathon, naturellement, vous calez à 180. Et j'ai envie de dire, si vous êtes à 180 et que vous préparez un marathon et que c'est l'allure marathon, vous êtes à 180, c'est presque idéal cette histoire-là, parce que c'est là que vous en avez le plus besoin. En fait, c'est dans cette allure-là que vous en avez le plus besoin. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à 180 sur un footing, mais 180 pour la répétition du nombre de pas que vous allez faire sur la distance d'un semi-marathon ou d'un marathon ou d'un trail. Là, par contre, c'est bien plus intéressant d'avoir cette foulée, d'être à cette allure-là, de vous sentir bien, d'être confortable à cette allure-là, avec ce nom, avec cette cadence, etc. Et donc, ça peut être très bien. Et je le répète, en accélération, votre cadence peut augmenter avec une poussée plus forte. D'ailleurs, ça développe du muscle, hein. C'est la poussée qui développe du muscle, hein. Donc c'est d'autant plus intéressant. Mais vous vous rendez bien compte que quand vous faites, par exemple, du fractionné, des accélérations, du sprint, des côtes, des escaliers, vous poussez beaucoup plus fort sur les jambes, mais vous pouvez aussi avoir une cadence qui soit beaucoup plus élevée en poussant beaucoup plus fort sur les jambes. C'est d'ailleurs une méthode de musculation, hein, j'ai envie de dire, c'est ça qui muscle le corps, c'est l'accélération qui muscle le corps et la décélération. Hein, c'est les deux moments hein, en fait où on muscle vraiment le plus le corps, où il pousse le plus fort. Et donc c'est vraiment là que le muscle en fait prend plus de force, tout simplement. Et donc en fait, il y a des moments où vous allez courir moins vite, je répète, des moments où vous allez courir plus vite, il y a des moments où vous allez peut-être être à cette allure-là, et c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut pas faire une fixette en se disant « je devrais être en 180 en footing parce que je crois que c'est pas l'allure qui soit vraiment la plus confortable pour beaucoup de gens d'être à 180 en footing ». Voilà, c'est peut-être on est mieux à 170. Et là, c'est un constat. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait beaucoup de contenu, on m'a posé souvent la question. Et c'est un constat, et moi quand je regarde aussi mes analyses de course, et ben c'est vrai que 180 sur un footing où on est vraiment cool en allure, en endurance mentale, et ben on n'est peut-être pas super confortable et que c'était pas l'idéal de le faire à ce moment-là, mais que si on y est après sur d'autres allures, et ben c'est peut-être tout aussi efficace. Maintenant, pour terminer, je vous ai promis en fait ma fameuse astuce pour vous rendre compte de ce que c'est vraiment et de comment trouver cette allure hein, de 180 pas par minute et de vraiment vous rendre compte. Elle a un gros avantage, c'est que vous n'avez même pas besoin de sortir. Vous pouvez faire ça chez vous tranquillement, vous n'avez même pas besoin de mettre de chaussures ou quoi que ce soit. Faites le même pied nu tranquillement, moi je le fais comme ça. En fait, il faut le faire à l'arrêt. Un exercice qu'il faut faire à l'arrêt. Bah ouais, on est dans un podcast, on parle de course à pied, de sport, de mouvement, mais là on le fait à l'arrêt. Et en fait, vous prenez une application métronome, voilà, ou un fichier, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous permet de repérer le fameux rythme de 180. Et donc vous restez sur place, et puis vous allez bouger les bras au rythme des 180. Et oui, bouger les bras. Donc le 1, 2, 3, 4, hein, par exemple, bras droit, bras gauche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vraiment ça. Et là, c'est de la mécanique. La mécanique va rentrer en jeu, c'est la mécanique du corps, c'est la magie du corps. C'est qu'en fait, les bras participent à la foulée et à l'équilibre. Et quand vous levez la jambe gauche, en fait, bah, par équilibre, vous levez le bras droit aussi. Hein, je veux dire, c'est... Le mouvement, il est comme ça, c'est-à-dire que c'est droite et gauche, hein, en haut et en bas, ils sont inversés. Voilà, quand vous courez, et ben c'est ça qui va jouer. Donc au départ, ce que vous allez faire, c'est juste commencer par bouger les bras. Quand vous avez bien repéré le rythme avec les bras, eh ben, vous allez vous rendre compte que vos jambes vont suivre au même rythme, tout simplement parce que c'est une question d'équilibre. Le corps est fait ainsi, hein, c'est vraiment fait partie du corps. On pourrait même aller plus loin parce qu'il y a des sections de rotation, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. Mais vraiment, rappelez-vous que les jambes et les bras sont synchronisés. Donc, si vous arrivez à bouger vos bras plus vite, les jambes vont bouger plus vite aussi. Donc, vous commencez par bouger les bras pour bien repérer le rythme. Puis ensuite, vous allez faire deux exercices. Vous allez voir, ils sont très simples. Le premier, c'est de mimer le rythme en levant juste le talon avec les pieds. Donc, vous savez, vous montez juste sur la pointe des pieds, vous n'avez même pas besoin de les lever haut. Mais en bougeant les bras et en bougeant donc les pieds en même temps, vous allez vous rendre compte en fait de ce que ça fait le 180. Et donc, essayez de le faire comme ça. Et puis après, vous pouvez essayer de le faire en courant juste sur place. Et là, vous allez vous rendre compte ce que c'est de courir à 180, la cadence que ça représente. Et le temps de pose du pied. Là, vraiment, vous allez vous en rendre compte. Il n'y a pas de question de vitesse, d'allure, à quelle vitesse vous courez ou quoi que ce soit. Vous allez vous rendre compte de ce que c'est de courir à 180 pas par minute avec ces méthodes-là. Et vraiment, vous allez pouvoir le repérer avec mouvement des bras, mouvement d'abord, en fait, où vous simulez de la course, puis une petite course sur place. Vous allez voir tout de suite ce que ça représente. Si vous êtes trop vite, si vous êtes trop lent, vous allez voir aussi ce que ça représente sur le plan cardiaque et autres. Et puis, faites cet exercice très régulièrement chez vous. En plus, quand il fait froid, vous n'avez pas envie de sortir, vous pouvez le faire. Vous pouvez le visualiser aussi. Vous pouvez vous ensuite le mémoriser, le visualiser, le refaire, hein, parce que c'est un très bon exercice au niveau entraînement de visualiser. Donc, vous le faites très régulièrement chez vous. Et puis, vous essayez de le transposer en courant ensuite. Et par exemple, ça pourrait de dire, avant de sortir, quand vous restez au chaud, eh ben vous mémorisez comme ça, vous reprenez la mémorisation avec les bras, puis avec les pieds, puis en courant sur place, et puis en partant ensuite en courant, vous allez essayer de retrouver cette cadence que vous avez mémorisée de cette manière-là. Faites-le très régulièrement chez vous, essayez de la transposer en courant ensuite, jusqu'à trouver l'allure confortable comme ça, et de voir si vous arrivez à trouver l'allure confortable. Voilà, vous avez donc maintenant tous les éléments. Et je dois vous donner une dernière information qui est pour moi importante, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que vous trouviez que cette course, cette forme de course soit un petit peu étriquée, que vous avez l'impression que vous fassiez des petits pas, que voilà, sentez un petit peu que ce soit un peu étriqué. C'est d'ailleurs une remarque que j'avais eue quand je courais en club, quelqu'un m'avait dit, quand tu fais du fractionné, t'as une foulée qui est bien plus longue, etc. Alors que quand tu cours en footing, t'as une foulée qui est tout étriquée. Il me dit, ta foulée, quand tu cours en vitesse, elle est plus intéressante, elle est plus belle et tout. J'ai dit oui, mais ma petite foulée, là, étriquée, t'as l'impression qu'elle est étriquée, elle est en fait super protectrice et je peux partir courir 30 ou 40 km de cette manière-là. Et en fait, c'est vrai que vu comme ça, ça fait un petit peu étriqué. C'est pas impossible aussi que ça vous fasse courir moins vite. Et je pense même d'ailleurs que cette histoire de cadence, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous êtes à 180 et que vous n'êtes pas très confortable, que ça vous fait courir un peu trop vite, vous allez essayer de réduire un petit peu en essayant d'avoir une cadence plus élevée que celle que vous aviez avant, mais vous êtes confortable, donc peut-être vous serez à 170. Et peut-être que l'allure que vous allez trouver pour être à cette cadence à 170, avec la longueur de foulée, avec la pose des pas, avec tout ça, peut-être que sur certains moments, vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh ben, ça vous oblige à courir un peu moins vite, d'avoir une foulée vraiment plus courte, d'avoir vraiment faire plus attention à des choses. Et vraiment, je dis, c'est pas plus mal, car le footing, c'est de l'endurance fondamentale. C'est pas un concours de vitesse. Donc, c'est pas celui qui fait le footing le plus rapidement. Si vous êtes parti pour un footing de 10 km, le but du jeu, c'est pas de faire les 10 km le plus rapidement. Non, non, c'est de faire un footing qui soit efficace pour vous. Et le footing efficace, eh ben, c'est pas de courir à toute vitesse, c'est de le faire en endurance mentale, tranquillement, de trouver le bon rythme, celui qui vous permet de parler, blabla run, etc. Et donc, de revenir en fait avec une fatigue qui soit très limitée, vraiment très limitée. Et si ces deux informations que je viens de vous donner, la course un peu étriquée, cette allure là, ça vous chamboule un petit peu l'esprit, que ça vous chatouille un petit peu l'ego, ben rappelez-vous que courir lentement, c'est courir, et que courir lentement, c'est aussi développer les compétences essentielles pour courir plus vite. Voilà, dites-vous juste qu'en fait c'est une étape dans votre progression, ou plutôt un outil dans votre progression pour mieux courir, pour aller ensuite vers des vitesses plus importantes, plus élevées, pour pouvoir courir plus longtemps, pour arriver à faire des choses que vous ne faites pas maintenant, mais que vous serez capable de faire dans quelques temps. Voilà, c'est vraiment le but aussi de ce podcast. Voilà, c'est maintenant fini pour cette question. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur Instagram @BertrandSoulier. Et si vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez un accompagnement, que vous souhaitez avoir des plans pour progresser dans certains domaines, cliquez sur les liens dans la description, vous trouverez toutes les informations. Il me reste à vous souhaiter un très très bon week-end, des très très belles sorties. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs.
Thank you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.